très bien.
Je vais avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'encoule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canus. Si vous nous rejoignez, bienvenue avec nous pour ce grand retour du Canu Info du jeudi, avec toujours à la technique et au micro, Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Et nous voilà donc de retour après 5 semaines d'absence, 5 longues semaines. Nous sommes désolés Hélène d'être partie si longtemps, en tout cas merci pour ton message. Ça nous a boosté de savoir que nous manquions des auditeurs et des auditrices, c'est toujours bien agréable. Donc nous reprenons le micro avec plaisir. Alors en 5 semaines, il s'en est passé des choses, tellement qu'il nous faudrait 2 émissions pour revenir, ne serait-ce que sur une toute petite partie de ces infos. Mais nous avons quand même choisi ce soir de revenir sur 2 sujets qui se sont déroulés cet été et qui ont encore des répercussions. Alors d'abord, nous parlerons de ce qui s'est passé à Charlottesville. C'est Laurent qui reviendra sur le sujet qui nous a mis en colère, hein, sur ce décès dû à la haine. Un décès qui nous touche bien plus que nous voudrions, hein, parce que j'imagine que pour certains et certaines, après tout, c'est bien loin, Charlottesville. Mais non, les racistes sont partout les mêmes, ils s'unissent et c'est bien là le danger, hein. C'est un danger bien présent. L'autre sujet qui nous touche beaucoup moins, hein, il y a moins d'émotions, c'est les œufs contaminés, quand même toute une affaire, hein. Ça c'est la mondialisation de notre alimentation qui fait encore un retour sur le devant de la scène après les lasagnes à la viande de cheval. Souvenez-vous, tout ça, ça nous fait rêver. On parlera aussi ce soir d'une enquête du FC Que Choisir sur la grande distribution qui se fait des thunes sur le dos du bio et sur le dos des producteurs, mais surtout sur le dos des consommateurs et dos et consommatrices. Alors, nous, on le savait déjà par notre expérience de consommateur, mais on est bien content que d'autres fassent un petit travail de fond, hein, quoi qu'on en dise du côté de la grande distribution. On aurait pu vous parler du Venezuela, un pays qui sombre dans la dictature, même si nos élites de gauche continuent à soutenir un régime répressif qui assassine, qui ferme les médias.
Oui, très militaire. On rappelle qu'il y a un quart des ministères qui sont détenus par des militaires.
Oui, et un soutien sous prétexte que les méchants, ce sont la droite et les fachos. Alors pour nous, c'est un peu voir la vie en noir et blanc. C'est agaçant et c'est surtout dangereux. C'est surtout dangereux pour ceux et celles au Venezuela qui ne sont ni chavistes ni de droite, mais qui attendent toujours la démocratie, la liberté d'expression, la liberté tout court, hein, comme on dit souvent ici. On aurait pu parler d'un autre pays qui a sombré depuis maintenant maintenant longtemps, la Turquie, hein, qui ne s'est pas améliorée sur cet été. Et puis, on aurait pu revenir longuement sur l'escalade entre deux abrutis, l'un des États-Unis d'Amérique, l'autre de la Corée du Nord, mais on reviendra sur le sujet, indirectement, avec un autre abruti,
avec celui-là, une blague.
Bien de chez nous, l'abruti, hein, parce que ça aussi, c'est international, la connerie. Nous parlerons des contrats aidés, hein, puisque ça aussi, ça a été un moment important dans cet été. Alors, au risque de vous fâcher dès cette première émission, nous allons être clairs tout de suite. Nous, on n'en veut pas, des contrats aidés. Ça va être la seule et unique fois où vous allez être d'accord avec M. Macron et ses compères.
Tu veux dire que toi, tu veux des vrais contrats avec des vrais salaires?
Ouais.
Ah
ouais, voilà.
T'étais un peu une gauchiste, quoi.
Ah, vous le savez, dans cette émission, on est un petit peu de gauche.
Non, ceci dit, il y a beaucoup de gauchistes qui défendent les contrats aidés, c'est-à-dire des contrats sous-payés, 24 heures,
des syndicalistes aussi.
Merde.
Tout à fait.
Voilà. Mais c'est bizarre de défendre l'exploitation.
Donc ça va être un petit peu un coup de gueule de ma part et nous expliquer pourquoi nous, on est contre. Mais il faut dire qu'on est quand même, on est gâtés, hein, pour ce jeudi, pour notre retour sur l'antenne de Radio Canu, puisque c'est le jour de la présentation de ces fameuses ordonnances que nous attendions tellement. Un mode de gouvernance de notre nouvelle équipe dirigeante avec notre chef empereur à la manœuvre. Car oui, la France est une entreprise qu'il faut rationaliser, encadrer, gérer avec de nouvelles règles imposées, tout en prétendant de manière paternaliste que tout cela, c'est pour notre bien. Évidemment, vous nous permettrez d'en douter que tout cela est pour notre bien. Nous avons écouté ce midi religieusement, si nous étions si religieux que ça, l'annonce de ces 5 ordonnances, de cette présentation libérale faite par notre Premier ministre et notre ministre du Travail. Difficile pour nous, hein, de ne pas commenter ces discours, de passer à côté. Difficile de garder notre calme aussi ce midi quand on a écouté tout cela. Hein, difficile face à des gens qui ne connaissent pas le chômage, la précarité, encore moins la pauvreté, et des gens qui viennent nous expliquer que eux et elles ont la solution pour nous remettre au travail, redresser l'économie et faire face au chômage de masse, puisque c'est l'expression employée ces derniers temps. Alors on avait envie évidemment de monter à la capitale, hein, de leur faire bouffer leur discours, et c'est Laurent qui s'est attaqué à ces ordonnances, et c'est d'ailleurs par ça que nous allons commencer ce soir, parce que c'est quand même le gros du morceau de cette semaine et de cette journée de jeudi.
Voilà, donc on notera quand même qu'il y a une belle égalité homme-femme, hein, puisque ces ordonnances ont été présentées par deux personnes que nous méprisons totalement, destructrices du droit des travailleurs, Édouard Philippe pour le côté masculin et Muriel Pénicaud pour le côté féminin. Donc deux personnes hautement méprisables et méprisées de notre part. Nous avons donc bien pour une fois une égalité des sexes et ça sera le seul côté positif de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce jeudi à midi, lorsque d'abord Édouard Philippe, parce que quand même c'est le mec qui parle en premier, et ensuite Muriel Pénicaud ont expliqué, Édouard Philippe, l'esprit de la réforme, et Muriel Pénicaud plutôt le contenu. Donc on a appris que le principe général c'était de changer l'état d'esprit du code du travail. Alors déjà on a appris qu'il y avait un état d'esprit dans le code du travail. Alors peut-être effectivement le code du travail c'était fait pour encadrer le travail et encadrer le travail c'est-à-dire empêcher les exploiteurs, c'est-à-dire les patrons de trop pressuriser, de trop exploiter, de trop tuer, parce que ça tue, hein, le travail c'est la première cause de mortalité dans le monde, de trop tuer les travailleurs. Le code du travail c'est fait pour ça, c'est fait pour protéger les salariés. Donc si on change l'état d'esprit, ça veut dire que le code du travail n'a plus pour but d'encadrer le travail et de protéger les salariés, mais ben, il reste quoi ? Il y a que deux camps, il y a les salariés et le patronat, et ben, du coup ils réorientent le code du travail, c'est annoncé officiellement pour protéger les patrons. Ça va être fait pour ça. Alors bien évidemment, avant de rentrer dans le détail, il y a une astuce qui est mise en place depuis Sarkozy, on va dire, c'est que quand on fait des réformes, on essaye de donner des miettes à tout le monde et de faire les parties importantes qu'à ceux qui nous intéressent, pour essayer de calmer le jeu. Ils sont arrivés à le faire, hein, puisqu'ils sont arrivés à amadouer, alors il attendait que ça, hein, le patron de Force Ouvrière, qui attendait qu'une chose, c'est de transformer son syndicat en syndicat de droite. Bon, bah là, ça va être fait, hein, libéral en tout cas. Et c'est le rôle le rôle intelligent, hein, de ce gouvernement et des deux précédents qui avaient la même technique, c'est qu'on donne, regardez, on libéralise, mais regardez, on donne des miettes, parce que c'est que des miettes, hein, dans les contreparties, comme ils appellent. Parce qu'il paraît que c'est une réforme équilibrée.
Et ambitieuse.
Et ambitieuse. Elle est vraiment ambitieuse. Par contre, équilibrée, on l'a pas vue. Hein. Alors, ça commence par ce qui avait beaucoup fait parler, les indemnités prud'homales, puisque là, c'est officiel. Elles seront plafonnées. Donc après, il y a des règles. On nous explique jusqu'à 2 ans d'ancienneté. On touche 3 mois de salaire maximum, etc. Ce qui est important, c'est pas toutes les règles qui sont données. C'est le principe. Et c'est un principe de justice qui était de justice en général qui était appliqué à la justice des prud'hommes, c'est que l'amende elle est proportionnelle à la faute et au préjudice. Classiquement, vous vous faites péter la gueule dehors et vous devenez handicapé, le préjudice est énorme. La personne qui vous a mis dans cet état-là a une amende et après une condamnation qui est très importante, plus que si quelqu'un dans la rue vous met une petite claque. Il y a un rapport de proportionnalité. Voilà. Ce qui est cassé dans ces prud'hommes, dans cette réforme, c'est la proportionnalité. C'est que maintenant, ben voilà, quel que soit le truc que vous avez en conflit, ça va dépendre de votre ancienneté, de quelques critères, mais pas de la faute, pas du préjudice. Du coup, c'est un énorme avantage pour les patrons qui vont pouvoir faire des choses énormes et qui ça leur coûtera très peu. Ils pourront d'ailleurs le budgétiser. Parce qu'on sait que c'est déjà ce qui se passe. Hein. Ils budgétisent déjà des choses au prud'homme sur certains salariés dont ils veulent se débarrasser. Ils provisionnent, parce qu'ils ont une idée quand même de la moyenne des amendes qu'ils ont au prud'homme. Et comme ça, ils peuvent s'acharner sur le salarié jusqu'à qu'il craque et qu'il les emmène au prud'homme. Mais ils ont budgétisé la somme, c'est pas un problème. Et ben là, ça sera encore plus facile puisqu'ils auront le montant exact. Et ce sera plus quelque chose qu'ils étaient obligés de calculer un petit peu, de réfléchir. Et des fois, ils tombaient juste et des fois, ils tombaient pas juste. Donc là, c'est un énorme recul. On s'y attendait. Bon, le délai d'accès au prud'homme est ramené à 1 an. Il y avait des conditions où c'était ramené à 2 ans après le licenciement ou après le départ de l'entreprise. Ça, c'est aussi un peu dommage. C'est l'idée de prescription. On sait que la prescription, c'est pas toujours terrible. Des fois, c'est bien qu'elle arrive au bout d'un certain temps. 1 an ou 2 ans, c'est très court. 1 an, c'est très très court. Notamment des personnes qui partent avec un conjoint qui reste dans l'entreprise, ça bloque les accès. La volonté d'aller au prud'homme, mais c'est fait exprès, bien évidemment. Alors ensuite, on a une miette qui est donnée, c'est les indemnités légales de licenciement en compensation, qui vont être augmentées a priori d'à peu près 25%. Sauf qu'en fait, toute la réforme va être faite pour qu'il n'y ait plus de licenciement, pour qu'il y ait d'autres systèmes, pour sortir quelqu'un de l'entreprise sans passer par le licenciement. Du coup, cette révalorisation des licenciements, ben voilà, c'est vraiment une miette parce que c'est quelque chose qui va disparaître de plus en plus. Ce que va nous expliquer d'ailleurs Muriel Pénicaud et Édouard Philippe plus tard. Bon, alors après, il y a ce fameux dialogue social, hein, ils en parlent tout le temps, mais en fait, c'est un dialogue qui est très inégal, c'est un rapport, on rappelle, qui n'est pas d'égalité, hein, il n'y a pas de démocratie et pas d'égalité dans les entreprises, c'est un rapport de subordination, bien évidemment, comme dans tout système totalitaire, hein, vous avez des chefs, vous obéissez au chef, hein, que le chef s'appelle Pétain ou qui s'appelle le patron de votre entreprise. Hein, c'est exactement le même rapport de soumission, malheureusement. Bon, vaut mieux travailler sous un chef d'entreprise que sous Pétain, ça c'est sûr, parce que vous êtes payé, vous n'allez pas forcément en prison, vous n'êtes pas déporté, d'accord. Mais bon,
il y a une possibilité de négocier quand même, on le rappelle, avec le patronat.
Mais il y a le même rapport de subordination.
Après on descend dans la rue.
De subordination.
Et on fout le feu, je suis d'accord, voilà. Mais bon.
Et sous Pétain, on résistait aussi.
On mettait le feu plus vite.
Donc, les TPE, les très petites entreprises de moins de 20 salariés, pourront négocier, et ça c'est énorme, avec un salarié non élu et non mandaté par un syndicat pour faire passer des accords. Alors jusqu'à maintenant, quand une petite entreprise n'avait pas d'élu ou pas de syndicat, l'entreprise ne pouvait pas négocier des accords. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était obligée d'appliquer les accords de branche. Et ça permettait aux toutes petites entreprises, avec 3-4 salariés par exemple, d'avoir des accords qui les protège. Là, vous imaginez une entreprise avec 3 salariés, le patron va leur dire, je vous propose cet accord. Les salariés font quoi? Ils sont 3, ils sont face à un patron qui peut les licencier du jour au lendemain, ben ils vont le signer l'accord. Ils ont pas les moyens de résister, ils n'ont pas la force, et donc c'est le but, c'est de faire plier et de faire baisser le droit du travail dans les entreprises avec ces fameux accords négociés directement avec des salariés. Alors, dans le même sens, on développe essentiellement les projets négociés en entreprise, donc ils vont pouvoir tout négocier presque, et notamment la disparition du CHSCT, hein, ce qui permettait de gérer l'hygiène et la sécurité dans les entreprises, puisque c'est remplacé par une sorte de truc général qui va fusionner le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, moins de 50 salariés, vous avez rien, de toute façon vous vous taisez. Plus de 50 salariés, ça veut dire qu'il y a une disparition des CHSCT, sauf pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et donc, si vous êtes dans une entreprise de moins de 300 salariés, il n'y a plus de CHSCT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grosse partie des travailleurs qui sont soumis à des produits chimiques, c'est 38% des salariés en France qui sont soumis, qui subissent, qui sont exposés à des produits chimiques ou cancérigènes. Et bien, il y en a une partie qui sortent de ce qu'il pouvait y avoir comme suivi médical et suivi scientifique et suivi de santé, puisque les CHSCT n'existeront plus pour les entreprises de moins de 300 personnes. Donc ça, c'est un énorme recul sur la santé au travail. On s'y attendait, c'était prévu. Ils avaient annoncé la suppression des CHSCT pendant l'été. Voilà. Alors ensuite, il y a le fameux référendum à l'initiative de l'employeur pour les entreprises de moins de 20 salariés, donc pour faire passer les choses, l'employeur peut proposer un référendum, par exemple pour baisser les salaires, pour augmenter le temps de travail, pour faire travailler de nuit, des choses comme ça. Ça, c'est très dangereux. D'abord parce que ça, c'est la porte ouverte à des entreprises qui auront un statut particulier avec des droits amoindris, des heures de travail bien plus importantes. Autrefois, c'était négocié par les syndicats, ou sinon, c'est pareil, c'était pas refusé, c'était pas voté, on appliquait les accords de branche. Donc là, c'est un énorme moyen de pression qui n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire que les salariés ne peuvent pas demander un référendum. On rappelle un rapport de subordination, le chef il est au-dessus, vous êtes l'employé, l'esclave, le travailleur, vous appelez ça comme vous voulez, dans ce rapport de subordination. Alors, on nous annonce que le rôle des branches est renforcé. Alors ça, c'est pareil, dans le beau discours, j'allais dire patronal, mais plutôt gouvernemental, qui est aussi un discours patronal, eh ben, on renforce les branches. Donc on se dit, ah ben en fait, ils ont renforcé le rôle des entreprises et de ce qui va être négocié, mais ils renforcent aussi les branches. Non. En fait, ils renforcent les branches par rapport au droit du travail. Vous savez qu'il y a une hiérarchie, hein, le droit du travail est au-dessus, il y a les branches en dessous, et puis après les accords d'entreprise. Et du coup, ils renforcent tout sauf le code du travail, qui est le truc qui protégeait le plus, normalement, sauf accord de branche, parce que les accords de branche peuvent être meilleurs que le droit du travail, jusqu'à maintenant c'était possible, c'était négocié comme ça. Donc là, ils renforcent les branches en opposition au code du travail, notamment les négociations sur les types de contrats, CDD, par exemple, jusqu'à maintenant, il y a un nombre de renouvellements pour les contrats à durée déterminée. Ben là, ça pourrait être négocié, ça sera négocié au sein de l'entreprise. Donc on pourra avoir des entreprises où ils vont autoriser, je ne sais pas, 500 CDD, par exemple, de suite, possible. Alors, c'est extrême hein, ce que je dis, mais voilà. On rentre dans cette négociation, alors ça sera fait par les branches, et le code du travail, ben... Voilà, il disparaîtra petit à petit par rapport à ces accords de branche. Voilà. Et puis il y a le développement de ces faux CDI hein, qu'on appelle les CDI. J'ai perdu le nom sur une seule affaire là.
Le CDD de chantier.
Voilà, le CDD de chantier qui est un faux CDI qui s'arrête quand le chantier s'arrête. Donc il y a pas de date et ça dépend de l'avancée du chantier ou de du chose.
Ouais, moi ça me fait penser à d'autres hein, qui existent comme ça. Il y a le CDD d'usage par exemple qui existe dans d'autres secteurs. Là il y a le CDD de chantier qu'on va ouvrir. Donc on est en train quand même de cumuler ces possibilités aux entreprises pour nous manipuler à leur avantage.
Alors le licenciement économique, on en parlait aussi un petit peu avant parce que ça avait fuité, pour les multinationales. Jusqu'à maintenant, quand une entreprise veut licencier pour des raisons économiques, elle doit être en difficulté économique, ce qui paraît relativement logique. Et on étudiait la santé de l'entreprise et pas simplement de la sous-branche qui est implantée à tel endroit en France. Et ça gêne les multinationales. Et c'est réaliste économiquement, c'est protecteur pour les salariés, mais ça gêne les multinationales. Le patronat a fait pression sur le gouvernement, et le gouvernement, qui était d'accord dès le départ, a accepté une modification. Donc seul le bilan comptable de l'entreprise, de la branche, de l'endroit où est l'atelier, est l'usine, sera concerné pour juger de l'aspect économique. Alors ça, c'est génial pour les multinationales, puisqu'il leur est très facile d'imputer des charges à une usine localement, et de lui enlever des crédits. Du coup, on peut rendre n'importe quelle subdivision, n'importe quelle usine déficitaire. Et du coup, après, grâce à cette modification du code du travail, ils pourront licencier pour des raisons économiques, alors que ce sera de la manipulation comptable. Voilà. Donc ça, c'est un énorme recul pour le travailleur, et c'est une énorme avancée pour les multinationales. voilà. Bon, voilà. Je vais pas aller plus loin. Il y en a plein d'autres. On n'a pas tout vu, hein, puisqu'on n'a que des analyses succinctes. Hein. Il y a des centaines de pages. Enfin, pas des centaines de pages, mais une centaine de pages. On verra à la rentrée. Ce que je voudrais revenir avant de te donner la parole, c'est comment ça va se mettre en œuvre. Donc là, le Conseil des ministres va examiner les ordonnances le 22 septembre. Le président les signe derrière pour les promulguer et ça rentre en vigueur tout de suite, au moment où le président y signe. Après, il y a 3 mois pour que le gouvernement passe devant l'Assemblée et que l'Assemblée valide, hein, ce qui va être fait puisqu'ils sont majoritaires. Et donc voilà, c'est parti. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'au final, donc les salariés y perdent, le patronat y gagne. Il n'y a aucune avancée démocratique, hein, il n'y a aucune démocratisation de l'entreprise. Hein, on reste dans un rapport hiérarchique de subordination. Il n'y a pas d'impact sur le chômage. Il y a une légende véhiculée par les gens de droite que le code du travail aura un impact sur le chômage. Ça n'a pas d'impact sur le chômage, hein, le code du travail, qu'il existe ou pas. Le chômage est ce qu'il est. Ce qui nous laisse entendre ce qui va se passer derrière, parce que c'est qu'une première étape, et la deuxième étape, elle est connue depuis le 25 août, donc il y a quelques jours, puisque la prochaine idée, c'est de revenir sur le SMIC, le salaire minimum présent en France. On sait qu'il y a des négociations en cours, ce qui n'avait pas été mis dans le programme de Macron, mais qui est mis en œuvre maintenant, puisque le groupe d'experts sur le SMIC, qui va travailler sur le revenu minimum en France, a été nommé, et dedans, on a essentiellement des libéraux qui sont contre le SMIC et qui veulent le remettre en cause, parce que c'est pareil, le salaire minimum aura un impact sur l'emploi. Ce qui n'est pas totalement faux, il a un impact sur l'emploi, mais il a un impact énorme sur la pauvreté et sur la diminution de la pauvreté. Et ça, ils n'en ont rien à faire. Donc ce qu'ils veulent, c'est augmenter, qu'il y ait moins de chômage, mais qu'il y ait des pauvres. Effectivement, si on fait du travail, mettons qu'on paye les gens 50 euros par mois, il y aura peut-être plein de gens qui vont être embauchés à 50 euros par mois, mais vous n'allez pas travailler à 50 euros par mois. Alors, peut-être qu'ils n'iront pas dans l'extrême à payer les gens 50 euros au lieu des à peu près 1000 euros net du SMIC aujourd'hui. Mais on va vers cette échelle-là, c'est-à-dire développement de la pauvreté et peut-être diminution du chômage, mais on s'en fout en fait du nombre de chômeurs. Ce qui compte, c'est le nombre de pauvres, le nombre de gens dans la misère, le nombre de gens qui galèrent. Et c'est pas le discours libéral, bien évidemment. Et c'est ça la prochaine étape. Alors tu voulais peut-être revenir sur les réactions.
Oui, c'était aussi juste pour dire que sur cette histoire de SMIC, il y a des libéraux, ce qui est assez incroyable, qui sont contre la diminution du SMIC pour une simple et bonne raison, c'est que si les gens ont plus d'argent dans une société basée sur le service, il n'y a plus de consommation et donc c'est notre économie et donc leur pognon d'investissement qui se casse la figure. Et on a quand même des gens de droite et libéraux qui sont contre cette diminution du SMIC. FO est contre cette diminution du SMIC. On est quand même content, oui, parce que les réactions, elles sont simples. Jean-Claude Mailly, pour FO, a donc bien reprécisé, si c'est encore nécessaire de le faire, que FO ne descendra pas dans la rue le 12 septembre prochain aux côtés de la CGT.
Et de Solidaires.
Et de Solidaires, et d'autres.
Peut-être d'autres, parce que la CGC était très remontée.
Oui,
donc
très très fâchée. Quand ils sont fâchés, là, dans ce syndicat, c'est pour de vrai. Il paraît qu'il leur faut du temps, et il faut pour lire tous les papiers. Bon, ben,
alors qu'ils ont négocié, du coup, ils savent ce qu'il y a dedans avant, mais enfin, bon, bref.
Bon, on a entendu Laurent Berger pour la CFDT, très ému que cette réforme ne soit pas plus importante dans le cadre de notre grand pays moderne, quand même.
Bon, je sais pas ce qu'il voulait, lui, mais...
On sait pas bien, en fait, si il ne veut pas trop que la CFDT se fasse taper dessus par les travailleurs et les travailleuses. Si, effectivement, la CFDT est un petit peu embêtée par le résultat de tout ça. Il y a, là, évidemment, Philippe Martinez qui est monté au créneau pour la CGT en disant que c'était la fin du contrat de travail. C'est vrai. Hein, je veux dire, ça paraît simple et caricatural, mais...
c'est la fin du contrat et c'est le développement des milliers ou des centaines de contrats différents.
C'est bien vers ça qu'on va. J'ai attendu, jusqu'à 15h, la réaction du MEDEF.
Alors, ils ont quand même dit, il est sorti en souriant, Gattaz.
Oui.
Et il y a eu un communiqué de presse du MEDEF.
Oui, qui s'appelle « Ordonnance réformant le code du travail 2. Un début intéressant, une vigilance dans la mise en œuvre ». Voilà, je vous passe le contenu.
Ils sont quand même contents.
Mais oui, alors, évidemment, le MEDEF, je pense qu'il se taise un peu. Hein, on en a discuté tous les deux, on a fait un petit débat là-dessus.
Là, il y a eu les unes.
Oui. Trop de soutien à Macron. Ouais. Et en même temps, je pense qu'ils sont pas tout à fait satisfaits non plus.
Ouais.
Ça va pas assez.
Ils sont quand même pas mal satisfaits. Et à l'université du MEDEF, où il y avait la moitié du gouvernement qui était présent, il a fait plein de trucs positifs sur le gouvernement. Il y a eu des unes de journaux là-dessus. Du coup, effectivement, il est embêté, Gattaz, parce que ça se voit trop.
Bah, c'est Macron qui embêté, surtout. Qui voudrait pas trop et avoir cette affiliation.
Voilà.
Quoi.
Que ça marche trop, il marche trop main dans la main. Du coup, là, je pense qu'il est plus sur la réserve pour pas se mettre trop en avant.
Mais quand même, moi, dans les discours, un des trucs qui vraiment m'a fait marrer ce matin, c'était le discours que les entreprises internationales ne comprennent rien, paraît-il, à la manière dont ça se passe en France. C'est marrant qu'on fasse un code du travail pour les multinationales comme Amazon et les autres, j'en passe.
Alors qu'avec les juristes qu'elles ont, elles sont capables de comprendre
exactement,
tout. Il faut arrêter.
Donc, on nous prend vraiment pour des abrutis. Alors, vous savez que ces ordonnances, vous avez peut-être été regardées, on peut les retrouver donc sur le site du ministère du Travail, sur travail-emploi.gouv.fr. Je vais avoir un petit message personnel à la personne qui est en charge de mettre les dossiers en ligne sur ce site internet. Peut-être, amie travailleuse, travailleur, tu es en contrat aidé. Peut-être que tu es en stage. Peut-être que en fait c'est ton vrai travail et qu'on ne te donne pas les outils. Peut-être que tu démarres, peut-être que tu es fâché. Mais sache que mettre un PDF de 70 mégaoctets en ligne, c'est débile. Voilà. Donc il va falloir que tu apprennes à réduire la taille d'un PDF ou que tu demandes les bons outils. Je suis à peu près sûre qu'au ministère du Travail, on a un service informatique qui est en capacité de t'aider. Mais sache que c'est débile. Voilà. Alors, si soit c'est débile, soit c'est une volonté exprès pour nous emmerder, pour télécharger le truc, hein, parce que l'ouvrir
dans un navigateur, c'est difficile. Du coup, on est obligé de le télécharger. Voilà. Et c'est long.
Donc, c'était mon message personnel de rentrée. Il faut arrêter les bêtises de ce type. Alors, donc, je parlais des contrats aidés. Si
alors,
tu veux
bien. Tu vas aller à l'encontre des gauchistes et des gens de gauche et des réformistes qui se sont élevés contre la mesure du gouvernement.
Oui, notre bien bon président a donc décidé la réduction de ces contrats aidés. Qui sont, explique-t-il, une perversion de la politique de l'emploi, en expliquant aussi que c'est une subvention déguisée vers les collectivités locales ou le secteur associatif. Ce n'est pas déguisé, c'est un emploi subventionné.
Tout à fait.
Donc, ce n'est même pas déguisé, c'est une vérité. Il faut savoir qu'il y a donc des études qui ont été faites sur l'efficacité de ces contrats aidés. Rappelons-nous, les contrats aidés, c'est les contrats d'avenir, par exemple. C'est les contrats d'accompagnement à l'emploi, par exemple. Il n'y en a plus beaucoup, mais parce que pendant un moment, on avait une ribambelle. La direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques a fait une étude publiée en mars dernier qui explique en fait dans le secteur marchand, c'est une opportunité pour les employeurs, puisque de toute façon, les entreprises auraient embauché quelqu'un, mais elles profitent en fait d'avoir une exonération de charges, tout un système qui leur permet d'alléger le coût de cet emploi, et que dans le système, dans le secteur, excusez-moi, non marchand, c'est-à-dire les collectivités territoriales et associatives, eh ben si à court terme ça a l'air sympathique, à long terme et à moyen terme ça l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a une répercussion assez faible finalement. Et puis on aurait l'impression tout de suite que ben ces emplois aidés en fait ils aident les jeunes, ben, c'est pas le cas. On s'aperçoit que les gens qui ont 30, 40 ans, 50 ans profitent beaucoup de ces contrats aidés. Alors certes, le contrat d'avenir est dirigé envers les moins de 30 ans, mais par exemple pour les CAECUI, c'est pas le cas. C'est ouvert à tout le monde, il faut juste rentrer dans des cases. La problématique, elle est aussi là, c'est qu'il faut rentrer dans des cases. Donc l'étude de la direction en fait nous explique que c'est pas si clair et qu'en plus de ça, il est très difficile d'arriver à quantifier l'effet positif de ces contrats aidés sur le chômage de masse. Hein. C'est un peu difficile parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, bon, on va pas se mentir, on se doutait bien qu'il y aurait un problème, puisque M. Hollande avait fait en début d'année ce que M. Sarkozy avait fait avant de quitter sa présidence. C'est-à-dire que M. Hollande a ouvert les vannes des budgets, des contrats aidés pour la fin de son mandat, c'est-à-dire pour le premier semestre 2017.
Pour faire baisser le chômage.
Pour tenter de le faire baisser. Ça n'a pas si bien marché, paraît-il. Donc, on savait que de toute manière, il n'y aurait plus vraiment de budget sur la suite, puisque M. Hollande, à la suite de M. Sarkozy, avait dû rebudgétiser ses emplois subventionnés aidés pour pouvoir terminer lui-même l'année à l'époque. Et bien là, M. Macron et son équipe n'ont pas décidé de faire ça, puisqu'ils ont décidé de couper. Hein, ça a été certes la problématique pour moi, c'est cette brutalité. On aurait effectivement pu arrêter les choses doucement en expliquant aux différents secteurs d'activité que, attention, la manne, elle va s'arrêter, préparez-vous. Bon, ceux aujourd'hui qui font les vierges effarouchées, franchement, en même temps, on s'y attendait un petit peu. Ça avait été dit, et puis on sentait bien que de toute façon, normalement, il n'y avait pas les budgets. Donc, il fallait se méfier. La difficulté, elle, c'est que moi, parce que j'en ai discuté avec certaines entreprises, les dossiers étaient faits, Ouais, déposée à Pôle emploi, par exemple, en CAECEUI pour l'associatif. La personne avait été embauchée, l'entretien d'embauche avait été fait, la personne avait été choisie, sélectionnée. Et du jour au lendemain, vous avez Pôle emploi qui vous dit, du jour au lendemain, je vous jure, qui vous dit, ah ben non, c'est plus bon. Alors que vous venez de recevoir le courrier dans votre boîte aux lettres qui était envoyé entre-temps et qui lui disait, oui, vous avez votre contrat aidé financier. La difficulté de ce contrat aidé, c'est qu'à la base, il était fait pour aider les travailleurs et travailleuses en difficulté, en particulier les jeunes ou les personnes qui avaient des difficultés à accéder à l'emploi, aussi par exemple sur les personnes en situation de handicap. Sauf qu'au final, ça fait bien longtemps que ça n'aide pas le travailleur ou la travailleuse, c'est-à-dire les salariés, mais en fait l'entreprise.
C'est juste de l'emploi subventionné finalement.
Voilà. Ça leur permet d'avoir de l'emploi pas cher, il faut être bien clair. Et alors en plus, il y a des secteurs d'activité dans ce qu'on appelle le non-marchand. Moi, ça me fait marrer, ce non-marchand. Dans l'associatif aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont des entreprises, point final. Elles vendent certes petits pas des petits pois parce qu'elles vont vous vendre un spectacle, hein, je prends dans le secteur de la culture et du spectacle, mais en même temps, elles vous vendent un produit. Qui est certes pas du petit pois encore une fois, mais c'est un produit. Le but, c'est quand même de faire bouffer des artistes, par exemple. Si vous prenez des musiciens, il faut les faire monter sur scène. Le but, c'est de les faire bouffer, qu'ils aient du cachet, qu'ils puissent vivre. Et donc, l'idée, c'est de vendre leurs concerts. Bon, on est bien sur une entreprise. Elles payent des charges. Elles vont payer, si elles fonctionnent un petit peu bien, des impôts, comme une autre entreprise. Et pourtant, elles sont en statut associatif. C'est-à-dire qu'on a on a dévoyé finalement ce qu'était le principe associatif. Du départ.
Qui ne devrait pas être marchand.
Et qui ne devrait pas du tout être marchand. Mais vous avez dans le secteur social et l'humanitaire exactement les mêmes problématiques.
Parce qu'il y a ceux qui disent, mais on ne fait pas de bénéfices, mais en fait, si vous montez en SCOP, c'est la même chose. Et la SCOP, c'est une entreprise, mais qui n'a pas forcément un but capitaliste. Ce qui est plus adapté, effectivement, le statut associatif est ultra dévoyé. Mais ça fait des années.
Ah, ça fait longtemps. Donc, on nous parle toujours de ce secteur non marchand. Il y a un moment, il va falloir arrêter avec cette histoire-là. Il faut le soutenir, il faut l'aider. Bon, il y a un moment aussi, on soutient quand même les entreprises qui en fait ne sont pas viables, il faut le dire, il faut aussi admettre les choses. Vous avez des entreprises qui tous les ans vont prendre un nouveau salarié ou une nouvelle salariée en contrat aidé, c'est-à-dire que on a pris quelqu'un 6 mois et puis hop, vas-y dehors, on attend un petit peu parce que des fois avec Pôle emploi il faut un petit peu attendre et puis hop, on vous reprend une nouvelle personne. Soit disant que ça aide des gens à rentrer dans l'emploi, il y a des secteurs où il n'y a plus que des emplois aidés.
Et en fait, c'est de lutte, on reproduit la précarité, puisque c'est des emplois qui sont existants en permanent, donc il y a besoin de quelqu'un en permanent dans cette entreprise associative. Mais sauf que, voilà, ils font des contrats de 6 mois ou d'1 an, donc du coup, ils développent la précarité. Et oui. Le but de l'associatif, ça serait pas plutôt de faire un système un peu juste, c'est-à-dire non précaire.
Mais surtout parce que le problème, c'est que la mobilité, qu'est-ce que tu en as? Quand toi, tu as un contrat de 6 mois et tu as pu avoir ce contrat aidé, quand tu en sors, tu ne rentres plus dans la case normalement. Hein. Mmh. Alors certes, on s'est aperçu que Pôle emploi parfois accorde un certain nombre de choses parce que l'entreprise pourrait être un secteur qui valide aussi des conditions à la place du salarié. Mais enfin, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus postuler. Alors on remarquera que la fin de ces emplois subventionnés fait apparaître un nouveau gros problème à mon avis, mais je ne suis pas la seule à le penser. C'est la multiplication des services civiques qui ne sont pas des emplois, hein, rappelons-le, puisque vous n'avez pas un salaire, vous avez une somme qu'on vous donne, qui est de l'ordre de souvent de 600 euros à peu près. Par contre, vous pouvez travailler 20 heures comme 35. Hein, ça, c'est l'employeur qui va le décider. Sans vous, bien évidemment. Et donc, on a aujourd'hui l'apparition dans un certain nombre de secteurs comme le social ou le spectacle, où ces services civiques se multiplient. Les entreprises en associatif sont en train de demander les agréments. Toutes ne l'obtiennent pas, heureusement. Mais c'est devenu la nouvelle vache à lait. Hein, le service civique, si je rappelle, c'est vos impôts aussi, hein, comme ça. Ça fait pas de l'emploi. Ça vide les professionnels de sens. C'est-à-dire que c'est aussi destiné à des gens qui sont plutôt jeunes, qui sont en cours de formation et qui souvent se retrouvent à travailler sans tuteur, sans accompagnement et qui sont largués. Et moi, j'en ai vu certains et certaines qui étaient en difficulté et ça, c'est pas normal. Donc, le Premier ministre et ses services sont censés un petit peu revenir sur la question parce que ça, évidemment, ça fait du bruit. Mais en même temps, moi, je me suis dit que s'ils avaient fait ça aussi brutalement, c'était pour éviter qu'il y ait une organisation et une révolte derrière. Parce qu'on a, par exemple, l'Association des maires de France qui a fait des courriers, qui lancent l'alerte, qui sont pas contents parce que dans les écoles, d'un seul coup, ils perdent leur contrat aidé, leur contrat subventionné.
Ah, parce que du coup, on apprend qu'il y a des contrats aidés qui font le ménage, des contrats aidés qui font la cantine, des contrats aidés qui font de la surveillance.
Qui font alors l'assistance aux élèves.
Mais alors, du coup, on se dit, mais attendez, s'il y a besoin de ces personnels dans l'éducation nationale, eh ben, faut les créer avec des vrais postes, des vrais statuts, des vraies possibilités d'évolution dans l'emploi et pas de l'exploitation. Du coup, on apprend vraiment que, notamment dans l'éducation nationale, hein, à travers ces contrats qui sont pas faits par l'État, mais par les régions, eh ben, qu'il y a toute une frange des travailleurs de l'éducation nationale qui sont des exploités avec des salaires vraiment pourris, hein, les emplois aidés.
Alors on rappellera peut-être les salaires,
énorme,
si vous
ne
savez
ouais.
pas, c'est que quand vous êtes par exemple en CAECI, on peut vous payer comme l'employeur le souhaite. C'est pas, y a pas une limitation, c'est pas cadré. Si on en vous payez 15 euros de l'heure, on vous paiera 15 euros de l'heure. Simplement, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe qu'en général, on va vous mettre le minimum qui est le plus qui est la norme, normalement, le 24 heures. Dans l'édition, c'est 21 heures, mais on s'en fout, on va dire 24 heures.
Au SMIC.
Je vous laisse calculer. Hein,
24 heures au SMIC, on touche quoi, 700 euros net par mois?
C'est moins, un peu plus, ouais. Moins de 800 euros, c'est-à-dire que vous êtes pas loin du seuil de pauvreté en France.
Voilà, c'est difficile de vivre avec ces sommes. Et ça, du coup, on se rend compte que c'est généralisé, que les maires de France, qui sont censés être des gens responsables, ils sont pour cette exploitation-là. Et l'éducation nationale, finalement, n'a jamais assumé de s'être séparé de ses salariés, qui sont localisés, qui sont de l'ordre des régions. Et on se découvre que l'État engendre de la précarité et gère au jour le jour la précarité avec ses emplois aidés. Alors peut-être que d'avoir fait ça, ça va obliger les régions et l'État à se poser des questions et à payer des vrais gens avec des vrais salaires. Et surtout, il n'y a pas que les salaires qui comptent. Il y a les possibilités d'évolution après, parce qu'on peut changer de métier, on peut évoluer, on peut prendre des responsabilités. Alors que là, avec ces contrats aidés, ça dure un temps de temps et après vous êtes viré. Enfin, vous passez à autre chose. Vous en trouvez un autre ailleurs. Enfin, vous ne pouvez pas rester au même endroit. Donc, c'est quand même vraiment de l'exploitation, ces contrats.
Alors, les propositions au niveau du Premier ministre. Le problème, c'est qu'ils veulent proposer des jeunes sous statut d'apprenti en collectivité. Et alors là, je vais rejoindre la grogne de l'Association des maires de France, c'est qu'un apprenti, il faut un tuteur, justement, et que ça, c'est un peu une obligation, et ça qu'ils ont, y a pas. Et puis, en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est en apprentissage, donc il y a un moment où la personne, elle n'est pas là. Donc, comment on fait aussi pour gérer tout ça? Donc, c'est en fait une fausse proposition, il faut bien le dire. Donc, les contrats aidés, pour l'instant, à long terme, ça ne marche pas bien. Il faut se rappeler quand même que ça date des années 80. Vous vous souvenez des TUC? Là, c'est un petit message.
Le tout début, c'est les TUC.
À ceux et celles qui ont eu les TUC. Qui ensuite ont eu les contrats emploi jeunes et qui, je suis sûre, aujourd'hui, ont aussi un CAECI, par exemple. Je vous fais un petit coucou personnel, parce que je sais, pour avoir discuté avec certaines personnes, que c'est votre cas. Vous avez commencé en TUC et vous avez enquillé, enchaîné les contrats subventionnés.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à rentrer dans un vrai travail avec un vrai statut.
C'est des gens qui ont fait des études.
Ouais, c'est ça, c'est incroyable.
Mais simplement, il y a des secteurs qui se sont spécialisés dans ce type de contrat et qui, malheureusement, on tourne en rond et on n'arrive pas à en sortir. Donc il y a aussi un investissement peut-être de l'État à revenir à subventionner correctement le spectacle, par exemple, ou le social, tout simplement. Au lieu de donner de l'emploi précaire, peut-être qu'il faut remettre de la subvention de fonctionnement, ou peut-être pas.
Pour créer des vrais emplois.
Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à rediscuter.
Dans l'éducation, ça paraît logique qu'il y ait des gens payés normalement pour gérer les élèves, pour faire la cantine.
En tout cas, donc tout ce rapport, vous pouvez le trouver sur le site, ça date de mars 2017. C'est assez lisible, c'est pas très long, donc il faut aller jeter un petit coup d'œil sur les résultats qui montrent que les contrats aidés, parce qu'ils remontent de loin, donc depuis les TUC, c'était Fabius à l'époque, si je me souviens bien, 84, 86.
C'était énorme.
Ouais, enfin, si vous avez un certain âge, vous savez de quoi on parle.
C'est le début des
voilà, et depuis, on a eu les contrats emploi jeunes qui étaient quand même des CDD de 5 ans. Ça, c'est fort quand même d'avoir inventé le CDD de 5 ans. Où, je vous rappelle, à l'époque, il y a eu des gros problèmes sur l'accès ensuite aux indemnités chômage, puisque par exemple, dans l'éducation, les gens ne cotisaient pas.
Ouais.
Donc quand ils en sont sortis, certains se sont retrouvés.
Sans rien du jour
au lendemain. Et puis, pour ceux qui étaient dans l'associatif ou dans les collectivités territoriales où là, il y avait une cotisation, pour avoir le chômage, il fallait aller au bout de ces 5 ans ou trouver un autre emploi pour pouvoir s'en aller. Mais si vous interrompiez votre CDD de 5 ans quand même, c'est long, 5 ans, quand ça se passe mal, vous vous retrouvez avec rien. J'aime quand même l'aide pour sortir du chômage massif en France.
Allez, un petit mot sur l'international maintenant avec un petit truc sur Israël-Palestine. C'est le retour des problèmes pour Salah Hamouri. Alors Salah Hamouri, on en avait parlé il y a peut-être un ou deux ans. Donc c'est un franco-palestinien qui est avocat et qui bosse avec Adamir, l'association qui s'occupe des prisonniers palestiniens. Il a toujours eu plein d'ennuis avec les autorités israéliennes, bien évidemment. Et là, il a été arrêté et il y a quelques semaines. Et là, il vient d'être condamné à 6 mois de détention administrative. Alors, condamné à 6 mois de détention administrative, ça veut dire qu'il est condamné par le régime oppresseur israélien sans passer devant la justice, hein, parce que la détention administrative, c'est ça, on passe pas devant la justice, donc il peut pas se défendre. Et il est condamné à 6 mois. Il y a bien sûr rien dans son dossier. Tout ça parce qu'il aide les prisonniers. Alors, les premières condamnations qu'il avait eu, il était en prison 7 ans hein, quand même. Hein. C'était pour ses sympathies pour le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. On notera quand même que, comme d'habitude, l'État français ne réagit pas. Hein. C'est un Français, il est franco-palestinien. Enfin, il est français parce que du coup, la nationalité palestinienne n'existe pas. Il est français et il va en prison, en détention administrative, donc un truc voilà, sans passer par la justice, et l'État réagit toujours pas. Donc il y a une mobilisation à Paris là dans les jours qui viennent, et voilà, c'est quand même toujours triste le harcèlement d'Israël contre les gens qui s'occupent un peu des Palestiniens et lui s'occupent des prisonniers. Donc voilà, c'était la triste info qu'on a pris hier.
Alors, je vais continuer un petit peu sur l'international, mais c'est plutôt pour amener une petite critique, si vous le voulez bien, sur la manière dont nos médias français réagissent à ce qui se passe dans le monde, et surtout quand c'est le malheur qui tombe sur la tête des gens. On a beaucoup entendu parler de cette tempête Harvey aux États-Unis d'Amérique, au Texas, hein, et sur Houston en particulier. 33 morts, hein, il n'y a rien de drôle là-dedans. 30 000 sinistrés, il y a un retour progressif à la normale, on nous annonce.
Mais par contre, il y a des heures et des heures d'antenne dessus. Hein.
Oui, mais des fois c'est intéressant, des fois ça l'est pas du tout, il faut quand même le dire. Ce qui est intéressant, qui va être à suivre, et de savoir comment tout ça va être géré par les États-Unis d'Amérique, c'est les pertes économiques, le matériel, puisqu'on est, selon les estimations, selon par exemple l'agence Bloomberg, entre 30 et 100 milliards de dollars de pertes, donc c'est des sommes assez énormes, il faut quand même se le dire. Et puis on a appris par exemple que l'usine chimique Arkema avait explosé aujourd'hui.
C'était prévisible et ils ont eu du bol. Les centrales, il y a une centrale nucléaire avec plusieurs tranches. Ils ne l'ont pas arrêtée pendant la tempête. Ils se sont dit, ça fonctionne, on y arrive toujours. Et ils ont eu de la chance.
Et voilà, ça s'est bien passé. Dis ça, exactement. On n'avait pas discuté tous les deux, mais je me disais bien que tu allais faire la petite remarque. C'est que, ben oui, on n'est jamais à l'abri d'un petit effet climatique et d'une petite tempête. Mais à côté de ça, on a beaucoup parlé donc de ce qui se passait au Texas, mais un tout petit peu moins de ce qui se passe en Asie du Sud, excusez-moi, depuis la mi-août, c'est-à-dire qu'il y a un mousson.
Ouais, et pourtant, c'est largement pire hein, en impact.
L'Inde, le Bangladesh, le Népal, et puis depuis hier et aujourd'hui, le Pakistan, plus de 1000 morts, quand même. Les plus graves inondations dans la région depuis plusieurs décennies, hein, je cite les organisations humanitaires sur place. En Inde, 750 personnes, c'est ce qu'on apprenait lundi. Les Nations Unies, la semaine dernière, comptaient 143 morts au Népal, 114 morts au Bangladesh, 13 morts au Pakistan aujourd'hui. C'est des millions de personnes qui sont touchées par la catastrophe, des millions de personnes, c'est-à-dire pas 30 000 sinistrés, c'est des millions de personnes. Je suis pas en train de vous dire d'un côté, il y a des gens qui valent mieux que l'autre, hein, c'est pas ça. C'est juste qu'on a des médias français qui sont toujours tournés plus facilement vers ce qui nous ressemble, a priori, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, où on a envoyé des envoyés spéciaux, excusez-moi pour la répétition verbale, mais par contre on n'a envoyé personne ou pas grand monde en Inde, au Bangladesh, au Népal, au Pakistan. On a quelques papiers écrits hein, qui apparaissent hein, sur les sites internet de notre presse française, mais on a quand même, quand on écoute France Info, on se rend compte que ça les a pas beaucoup intéressés,
non,
quand même
pas du
ce
tout.
Qui se passe là-bas, alors que il y a quand même moyen que ça nous intéresse quand même.
Ouais.
Voilà.
Alors on va revenir sur on va parler de racisme avec deux infos, et je vais revenir sur ce qui s'est passé à Charlottesville. Alors je vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais sur l'analyse que j'en fais et par rapport aux réactions. Alors vous avez tous en mémoire hein, de ces événements de Charlottesville avec cette manif de militants d'extrême droite américaine. Et ensuite de l'assassinat par un de ses militants, de Heather Heyer, qui venait en tant qu'antifasciste s'opposer au déferlement de haine de ces petits nazillons nord-américains. Donc ça, c'est des événements tragiques. On a vécu les réactions ridicules du président américain, qui est plutôt proche des nationalistes et des fascistes ou des racistes
de la manif, aussi,
des suprémacistes, parce que c'est le terme américain, il y a
exactement
beaucoup de suprémacistes blancs. Voilà. Bon, suite à ces événements, certains journaux ont ressorti des photos qui n'étaient d'ailleurs pas toujours récentes sur des maisons américaines sur laquelle ou dans le jardin de devant il y avait un mât, parce qu'ils aiment bien mettre des mâts avec des drapeaux, et on voyait des drapeaux nazis. Alors le drapeau confédéré aussi, hein, mais bien évidemment c'est plus dans la tradition américaine, mais aussi on voyait des drapeaux nazis. Du coup est réapparu sur le débat sur le fameux premier amendement de la Constitution américaine, qui met la liberté d'expression au-dessus de tout le reste, et ce qui permet donc aux nazis d'avoir le droit de s'exprimer. Et c'est vrai que pour nous, ce particularisme nord-américain, c'est un peu surprenant, ça nous laisse dubitatif. Alors moi, je suis le premier à me réjouir quand un journal ou un site internet de facho est interdit. Et ce qui n'est pas possible aux États-Unis d'Amérique. Alors la question que je me pose toujours, c'est est-ce que ce petit plaisir est vraiment compatible avec la vraie démocratie que je défends? Bon, bien évidemment non, parce que...
Vous savez, si vous nous écoutez, qu'on n'aime pas trop la censure.
Voilà, du coup, même la censure des fachos, même si ça me réjouit sur le coup, sur le long terme, j'y suis perdant. Alors, je vais prendre quelques exemples récents et qui vont faire le lien avec l'actualité de cette semaine, puisque l'Allemagne vient de fermer Indie Media Linksunten, donc la version allemande d'Indie Media, un peu l'équivalent de Rebellion. Donc, c'est-à-dire un site d'information d'extrême-gauche qui était très impliqué dans le suivi, dans le soutien aux mobilisations contre le G20 à Hambourg, qui a eu lieu début juillet, et ce qui a énervé les Allemands, l'État allemand. Donc ça, voilà, on ferme, on interdit. Du coup, c'est pas que l'extrême droite hein, qui a ses sites fermés, c'est aussi l'extrême gauche. Dans le même ordre d'idée des régimes répressifs mais démocratiques, le père Erdogan, président turc, c'est toujours une démocratie la Turquie, on le rappelle. Lui censure, il arrête, il torture des journalistes depuis des mois et des mois, il fait fermer des journaux, et tout ça est permis par la démocratie turque. Alors je sais bien que c'est deux exemples parmi tant d'autres. On pourrait citer la Pologne ou l'Autriche de Viktor Orban, où les journalistes aussi en prennent plein la gueule. Ça démontre tout simplement qu'en fait les démocraties représentatives type européennes ne sont pas empêchées de voter des lois liberticides, voire des fois elles aiment bien voter des lois liberticides. On en a quelques-unes en France aussi. On peut ainsi, finalement, par rapport à ces premières remarques que je dis, conclure que la liberté d'expression semble être plus grande dans la démocratie nord-américaine que chez nous, où effectivement les sites d'extrême gauche sont pas forcément fermés, et les sites d'extrême droite non plus d'ailleurs. Certes, donc les fachos peuvent s'exprimer, mais les autres aussi, et c'est peut-être ça qui est important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Vous me direz, ça n'a pas empêché les États-Unis d'avoir de la censure aussi, on se rappelle du macartisme, hein, avec cette chasse aux sorcières, des gens soupçonnés souvent à tort, mais même à raison, d'avoir des affinités avec l'extrême-gauche ou le communisme. Et ce qui n'empêche pas non plus, d'ailleurs, la surveillance passive de la population. Mais on imagine bien qu'avec ce premier amendement, eh ben, l'Allemagne aurait été embêtée, aurait voire pas pu fermer, en tout cas ça aurait été plus compliqué pour fermer Indie Media allemand. De même, Erdogan, il aurait été un peu embêté s'il y avait eu dans sa constitution la protection du droit de la liberté d'expression. Bon, vous allez me dire, après ils peuvent modifier les constitutions, mais c'est pas du tout envisageable aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce premier amendement, il a un avantage, c'est qu'il a changé les mentalités. Et aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est un truc fondamental que personne envie de remettre en cause. Et ça, chez nous, c'est pas envisageable, et on a de la censure en permanence. C'est vrai que, comme je dis, quand on censure les fachos, ça nous fait plaisir quelque part. Mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, si je peux le dire. Je vais prendre un exemple sur le racisme. Parce qu'on a deux manières de combattre le racisme très différentes entre les États-Unis et la France, et l'Europe, on va dire. Par exemple, chez nous, pour lutter contre le racisme, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des interdictions. Donc aujourd'hui, officiellement, il est interdit d'être raciste, d'être homophobe, etc. On le sait.
Pardon, ça me fait sourire.
Mais c'est vrai.
Parce que quand tu le dis comme ça, on ne peut que sourire.
Officiellement,
quand même.
C'est interdit. Il y a des gens qui sont condamnés. Hanouna, il a été condamné, etc. Il y a plein de gens qui sont condamnés. Alors, à condition que ça soit visible. C'est-à-dire que votre racisme, il passe à un moment dans un média, qui devienne visible, que quelqu'un porte plainte et que ça passe en justice. Alors, est-ce que c'est efficace? Pas vraiment. Puisqu'on le voit, le racisme est toujours là. Il s'affiche de manière différente, mais il est toujours très présent, et pour preuve, plus de 10 millions de Français ont voté quand même pour le Front National à la dernière présidentielle, parti raciste, même s'ils ont un racisme dissimulé, parce qu'ils sont pas cons non plus, hein, et qu'ils veulent pas aller en justice tout le temps, ils y vont de temps en temps.
Des fois, ils ont du mal à le dissimuler
des
quand
fois,
même.
Ils ont du mal.
Excuse-moi, mais c'est, ça clignote
donc,
des fois.
Ça démontre que finalement, que ces interdictions, elles sont pas efficaces du tout. Et la non-interdiction n'est pas plus efficace. Aux États-Unis, finalement, on a aussi du racisme. Hein. Alors eux, ils ont des politiques différentes, de discrimination positive, mais au final, ce qu'on remarque, c'est que, et Charlottesville l'a montré, c'est pas plus efficace, et le racisme, il est partout, toujours très présent. Et les mentalités évoluent pas, ou en fait, on va être positif, elles évoluent peu, ou très lentement. Hein. Alors, mais il y a une raison à tout ça. Et la liberté, elle pourrait exister avec une baisse importante du racisme. Tout simplement s'il y avait de la pédagogie et de l'explication, voire de la propagande. Aujourd'hui, si vous faites le bilan de votre journée, entre le matin où vous vous levez et le soir où vous vous couchez, quel type d'informations vous avez eu l'occasion d'avoir accès ? Alors, si vous êtes curieux, vous intéressez aux journaux, vous allez lire un journal, allez voir un site internet d'information, vous avez un petit peu accès à l'information. Et ça, c'est peu de gens qui le font, malheureusement. Vous écoutez la radio, etc. Et si vous regardez, par contre, l'essentiel des informations qui vous arrivent en pleine figure tous les jours, c'est pas ça, c'est la pub. C'est quand vous sortez dans la rue, vous n'avez pas d'informations politiques, vous n'avez pas d'informations économiques, enfin écologiques, vous avez de la publicité pour vendre des produits. En fait, aujourd'hui, la majorité des informations qui atterrissent dans le cerveau des êtres humains, c'est de la publicité. Donc on se dit, en fait, c'est simplement 99,9 fois sur 100, vous avez une info pour vous vendre un produit et on vous parle jamais. Des lois qui sont votées, des choses positives, on vous explique pas pourquoi le racisme c'est mal. Alors si vous me direz, si il y a quelques mois il y a eu une campagne contre l'homophobie. Bon, si vous regardiez, c'était quelques pourcentages des panneaux publicitaires. Alors c'était même les panneaux de la ville. Et finalement ça a pas duré très longtemps. Et donc au final l'impact il reste faible parce que effectivement les hommes politiques votent des lois comme ça sur le social, sur le respect des autres pour se donner bonne conscience, mais à aucun moment ils ne mettent en œuvre ces lois réellement, c'est-à-dire qu'ils font changer les mentalités. Et ça c'est simple. Il suffit de dire, chaque fois qu'il y a un panneau publicitaire avec deux pubs qui circulent, et il y en a une, c'est un message d'intérêt général, et l'autre, c'est un truc pour vendre une merde, ou un truc utile, mais en général, c'est une merde. Voilà. Ça, aucun homme politique, homme ou femme politique, n'a jamais eu le courage de faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vote une loi sur l'égalité homme-femme, on n'en parle jamais. Alors, il reste les médias qui peuvent en parler, qui glissent des trucs, mais c'est infime la quantité d'informations données par les médias par rapport à la publicité qui, elle, est ultra présente, même dans la rue. Quand vous vous promenez, vous êtes victime de cette propagande publicitaire. Donc, il y a un vrai choix, et c'est un vrai choix, c'est pas accidentel, de faire que les lois qu'on vote comme ça, qui donnent bonne conscience, eh ben, on fait tout pour qu'elles ne modifient pas la conscience des gens, et au final, on a un État raciste, on a une population en grande partie raciste. Il suffit de voir quand la parole est libérée, c'est-à-dire quand il n'y a pas de médias, quand il n'y a pas d'éléments où on risque d'aller en justice, les mentalités restent celles d'il y a 20 ou 30 ans. Sur l'homophobie, c'est toujours très fort. Donc voilà, c'était ma réflexion par rapport à Charlottesville. Et ce premier amendement sur la liberté d'expression et la non-liberté. Au final, il faut laisser la liberté d'expression même aux fachos, mais par contre, il faudrait qu'il y ait des vraies politiques pour lutter contre le racisme, pour lutter contre l'inégalité homme-femme, tout ce qu'on peut imaginer, le travail des enfants, les violences conjugales, tout ça. Mais qu'il soit une des vraies politiques, avec de la vraie propagande, puisque c'est de ça dont il est question, la propagande publicitaire, c'en est une, elle est là, elle est présente. Il faudrait qu'il y ait au moins l'équivalent en surface, en surface physique et en temps d'antenne pour de la propagande, on va dire, sur des choses un peu importantes. Comme j'ai cité avant, donc voilà, j'étais un peu énervé cet été avec ce truc.
Ouais, ça nous a quand même interpellé, ce qui s'est passé.
J'ai une deuxième info sur le racisme.
Oui, c'était une histoire d'abruti. Oui. Ce que je citais au début. Voilà, parce que. En introduction.
Alors, vous avez vu, t'en as parlé, la Corée du Nord, les États-Unis, c'est des concours de beats. On a l'impression que c'est un concours de beats avec des êtres, des mecs.
C'est là, ça. On ne parle pas beaucoup de beats dans cette émission, mais on va le faire quand même, parce que je suis assez d'accord.
Alors, ça pourrait se passer avec des femmes. Moi, je suis désolé, Thatcher. elle, pour moi, elle était aussi violente.
Là, excuse-moi, mais c'est quand même, ils les mettent sur la table. Il faut employer une expression toujours dans le temps d'idée. Hein, j'essaie de suivre un petit peu ton idée ce soir. On a quand même deux histoires de mecs qui faut qu'ils se calment, quoi.
Voilà, non, mais c'est ça.
Vous avez entendu que quand même, il y a un machin qui est passé à côté d'un avion d'Air France. Hein, ouais. On l'a su après. Ah. Là, il y a eu un truc autour du Japon. Enfin.
Bon, il y a des concours de testostérone entre les deux États. Mm. On va pas défendre les États-Unis d'Amérique. Non. Loin de là. Mais enfin, on va quand même pas défendre la Corée du Nord, qui est largement pire. Alors, pour le coup, en Corée du Nord, la liberté d'expression, elle n'existe pas.
C'est juste que.
C'est un autre monde, quoi.
Voilà.
Voilà, c'est un régime 100% totalitaire, hein, je veux dire. Voilà.
Belle dynastie, paraît-il.
Voilà. Donc, aucune liberté tout court, aucune liberté d'expression, etc. Eh bien, on a trouvé, enfin, un Français qui. Deux, j'en ai trouvé plusieurs, qui soutiennent la Corée du Nord. Et bon, forcément, c'est des militants d'extrême droite. Bizarrement, alors que c'est bizarre quand même, parce que c'est un régime officiellement
pourtant,
communiste.
Pourtant, on en trouve aussi chez les gauchos. Il y a quelques années, on en trouvait.
Ouais, mais moins maintenant.
Mais bon, on en trouvait encore ces derniers temps.
Donc, il s'agit de Dieudonné. Vous savez, autrefois, c'était un humoriste qui était juste humoriste. Et puis un jour, il a vrillé. Il est devenu raciste, homophobe et tout ce qu'on peut imaginer, multi-condamné. Et donc, le raciste Dieudonné va partir en Corée du Nord pour défendre le régime. Il va
pour la paix. Excuse-moi, pour la paix.
Alors, le régime de Pyongyang, la Corée du Nord, organise un festival de la paix.
Oui.
Donc ils ont invité Dieudonné qui va avec son ami Soral, autre militant d'extrême droite, pour soutenir. C'est quand on va dans ce festival, c'est pour soutenir la Corée du Nord, bien évidemment. On n'y va pas pour critiquer la Corée du Nord. De toute façon, vous pouvez pas critiquer la Corée du Nord. Donc voilà, c'est juste rigolo tellement que c'est honteux d'aller soutenir le pire régime totalitaire du monde. On soutiendra pour rien au monde Monsieur Trump et son régime. Mais alors, il y a quand même une énorme différence encore aujourd'hui. Les copains anarchistes aux États-Unis peuvent vivre. Il n'y a pas d'anarchistes en Corée du Nord, ils sont tous morts.
Alors, on va revenir sur une affaire de cet été. On va parler d'œufs.
Pourris. Ah non, ils n'étaient pas pourris.
Ils sont pas pourris. Non. C'est juste que nous avons découvert que du fipronil s'était glissé dans les élevages avicoles aux Pays-Bas et en Belgique. On a appris depuis mercredi dernier qu'on avait trouvé aussi de l'amitraze, un deuxième produit. Alors,
c'est pas bon, ça se mange pas, le fipronil et l'amitraze?
Non, alors c'est en plus des produits qui sont interdits. Le fipronil, c'est un insecticide interdit dans l'Union européenne sur les animaux qui sont destinés à la chaîne alimentaire, hein, dans les ovoproduits. L'amitraze, c'est un machin qui sert à éliminer les mouches. Hein. Il faut savoir que c'est des produits comme ça qui, à un moment, on en trouvait dans les colliers pour les chiens, par exemple. Il y en a qui ont été retirés du marché parce que même ça, c'était pas bon. Hein. C'est-à-dire que déjà, parce que souvent, les maîtres et les maîtresses
les touchent,
mais en plus parce que ça fait du mal aux animaux et que nous, on aime quand même beaucoup les animaux ici. Alors, tout ça... oui, bah, parfois, on les mange aussi, je sais. On a fait ça avant de... il n'y a pas très longtemps. Donc, tout ça pour dire que tout est parti d'une belle petite entreprise dont je vais reparler, qui s'appelle Chic Friend.
C'est plus qu'une entreprise, ils ont monté une escroquerie.
Ça n'empêche pas qu'une entreprise peut être aussi une escroquerie. Alors déjà, une des infos qu'on a eues grâce au cabinet d'études Iris, c'est que les ventes d'œufs dans les hyper et supermarchés français ont reculé entre le 7 et le 13 août, c'est-à-dire que les ventes ont baissé de 8,7%, ce qui est beaucoup, hein, parce que l'œuf était en pleine augmentation. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, les produits qui ont été retirés, c'était pas l'œuf, c'était du produit transformé. D'abord, on a ces fameuses gaufres industrielles qu'on trouve sous un certain nombre de marques, des produits qui sont soit sous une marque, soit de marque de distributeur.
On notera que
tout le monde était visé d'ailleurs.
La quantité trouvée n'était pas dangereuse.
Alors,
on s'est retiré d'office parce que c'est un produit dangereux.
Ça dépasse la limite réglementaire. Ouais.
Mais les gens qui en ont mangé ne sont pas morts, ils ne vont pas mourir. Hein, ça a été découvert avant qu'il y ait un vrai impact sur la santé.
Mais c'est marrant, voilà, cette réaction que donc les gens ont, c'est l'œuf, donc on achète à racheter, on arrête l'œuf. Alors, le seul qu'on n'a pas baissé, c'est les œufs bio. Moi, j'aimerais juste rappeler que le bio...
Ils ont été contaminés aussi.
Voilà. Quand c'est industriel, il faut arrêter de croire que le bio, c'est beau. Nous, on adore le bio, on le soutient. Simplement, le mieux, c'est quand même d'aller voir au marché votre producteur de volailles et d'œufs. Parfois, ils vendent du fromage aussi, hein, comme le mien, par exemple. Au moins, quand vous avez un problème avec ces œufs, vous pouvez aller lui péter les genoux et puis aller voir dans sa ferme. En général, il y en a beaucoup. Vous allez voir dans sa ferme, il va pas vous taper dessus. À la rigueur, il serait presque plutôt content pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles.
Non, mais dans le bio, des producteurs. Alors, pour le coup, mais... c'est pareil. Ils ont été honnêtes. Ils ont acheté un produit certifié bio pour leur poule, relativement industrielle, mais beaucoup moins quand même que les poules d'élevage en batterie. Et bon, on leur a vendu un produit pourri. Hein. Donc c'est, l'entreprise, elle a vraiment estroqué les gens. Hein.
Oui, alors je vais amener un bémol d'ici quelques minutes. Mais en tout cas, voilà, il faut arrêter de penser que le bio, c'est quelque chose de parfait. Non, parce qu'aujourd'hui, le bio, il est aussi tenu par l'agroalimentaire et l'industrie. Donc rien n'est nickel. Donc le mieux, c'est quand même d'aller acheter vos œufs là où vous pouvez avoir une vraie discussion avec le producteur. S'il y a un problème, il peut vous mentir, hein, lui aussi. Mais en tout cas, encore une fois, vous pouvez aller le secouer. Ça prend des proportions quand même assez incroyable, j'en ris presque parce que j'adore la mondialisation au niveau de notre alimentation. Je crois qu'on en est aux 17 pays européens et il y a un pays lointain, enfin un pays, un territoire que nous on considère quand même comme plus ou moins autonome, Hong Kong.
Qui est touché.
Donc c'est pour ça que vous savez, la mondialisation au niveau de notre alimentation, c'est quand même un problème en fait, il faut bien se le dire. Donc évidemment, hein, il y a chez nous, mais il y a la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et on a découvert que ça a touché aussi la Bulgarie, c'est le dernier pays en date. Les autorités bulgares viennent de saisir, il y a une dizaine de jours, une tonne de poudre de contaminée au fipronil. Et d'où elle venait, cette poudre? D'Allemagne. Parce qu'il faut imaginer dans votre petit cerveau quand même, ou votre gros cerveau, ça dépendra, j'invente, mais c'est la réalité. Vos œufs, ils vont être produits en Belgique, mais ils vont être transformés en poudre en Allemagne, et ils se retrouvent pour être transformés en petits gâteaux en Bulgarie. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors maintenant, ça touche au-delà des gaufres, puisqu'il y a les pâtes, hein, les pâtes alimentaires, on a des muffins, il y a eu la frangipane, donc vous voyez, ça, on commence à voir les produits transformés apparaître. La liste est visible sur le ministère, le site du ministère de l'Agriculture. Donc je vous ai dit Hong Kong, ça s'est fait, hein, hop, c'est marrant quand même, hein, comme ça circule, hein, quand même la nourriture. Au niveau de la France, les services départementaux ont reçu l'instruction le 8 août dernier de mener des investigations qui se terminent normalement aujourd'hui dans les élevages de poules pondeuses pour vérifier si les produits antiparasitaires incriminés en Belgique et aux Pays-Bas sont utilisés aussi en France. Alors, il faut savoir qu'il y a deux centres d'emballage dans le Nord et dans la Somme, hein, qui ont reçu des œufs de consommation contaminés qui provenaient des Pays-Bas et de la Belgique. Sur la page agriculture.gouv.fr, fipronil-point de situation pour les professionnels, vous pouvez trouver le nom, les adresses des grossistes concernés, des centres de conditionnement de concernés et des établissements de transformation de ou de vos produits qui sont concernés par les restrictions, les retraits de produits. Pour l'instant, le problème que moi je vois quand même à ces investigations, c'est que ce sont les élevages français qui ont fait un retour de questionnaire, c'est-à-dire c'est de l'auto-analyse. Il n'y a que 350 inspections qui ont eu lieu sur les 2900 élevages français recensés, donc c'est assez petit. Hein. Moi, l'auto-évaluation, je veux bien, mais là où ça me pose problème, c'est qu'effectivement, on a une entreprise, je vous en parlais tout à l'heure, qui s'appelle donc Chic Frimb, qui donc a escroqué tout le monde effectivement, puisqu'ils ont vendu un produit pour lutter contre le pou rouge des poules, alors que vous avez le pou rouge, c'est une vraie cata, hein, il faut le savoir, hein. Donc quand cette entreprise menée par deux jeunes entrepreneurs, hein, des trentenaires, sont arrivés avec leur produit miracle, les éleveurs de
poules,
tout
le monde était content,
sauf que ils auraient dû se gratter deux secondes la tête, c'est de se dire que c'était quand même bizarre, ce produit miraculeux qui arrivait d'un coup d'un seul à tuer tout leur vilain pou rouge. Il y a eu pourtant des gens, hein, dans la branche qui ont dit, attendez, il y a un problème, c'est trop miraculeux, ça peut pas être vrai, il y a forcément quelque chose dans le produit qui va pas. Aujourd'hui, du côté des volaillers aux Pays-Bas et en Belgique, c'est quand même un peu le silence radio. C'est-à-dire que...
ils ont honte.
Bah ouais, enfin je veux dire, ils ont quand même été assez opportunistes d'avoir ce truc miraculeux sans trop se poser la question du contenu, hein, a priori sur lequel, hein, tout le monde était assez satisfait. Cette société, donc, elle a été montée par deux jeunes avec les dents a priori assez longues, qui ont bien rayé le parquet. L'un de ces deux Néerlandais connaissait très bien le secteur. Et l'autre s'y est très vite développé. Et dès le départ, ils sont arrivés et ils ont réussi à se répandre. Et avec le bouche-oreille, ils ont vendu leurs produits assez facilement. Mais c'est l'idée du miracle, hein. Encore une fois, c'est ça qui a marché. Et très très vite, ils ont gagné de l'argent. Ils ont multiplié des pratiques qui sont aujourd'hui remises en cause. Ils ont menti. Et puis, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, ils avaient un secret de fabrication. Ça déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous avez deux genoux qui arrivent avec les dents qui dépassent sur les côtés et qui vous disent nous on a un secret de fabrication pour tuer des poux rouges que personne n'arrive vraiment à se débarrasser et que c'est très compliqué, il y a eu un petit souci. Alors ils sont en garde à vue. Hein, ils ont été arrêtés, les deux genoux. Chicfran, a priori, c'est fini. Coulé, ouais. Les peaux rouges vont pouvoir revenir. L'État français a mis du temps à réagir quand même sur la transparence, mais a priori, c'est lancé et c'est fait. Vous pouvez aller sur le site hein, du ministère de l'Agriculture. Il y a une petite transparence qui est en train de se faire. Voilà, c'est intéressant parce que c'est à la fois la mondialisation de notre alimentation et des circuits de distribution de cette alimentation. À la fois une histoire d'escroquerie, hein, de deux petits genoux qui veulent faire... c'est pas de l'insulte, hein, les jeunes, c'est juste qu'ils étaient deux jeunes entrepreneurs. Et quand on a 30 ans, on est quand même encore jeune, excusez-moi, qui ont voulu faire de la thune et qui ont escroqué des gens. Un secteur qui était bien content de trouver un produit miraculeux et que surtout, on voulait pas trop regarder d'où ça venait et comment ça fonctionnait. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une contamination assez importante et qui touche quand même pour l'instant 18 pays et c'est pas fini, à mon avis.
Tu voulais reparler brièvement?
Oui, je voulais vous lancer à aller lire l'étude qu'a menée UFC Que Choisir, qui a été publiée ce mardi, sur les marges de la grande distribution sur les produits, sur les fruits et légumes dans le bio. Alors, UFC Que Choisir, ils sont allés dans les supermarchés, les hypermarchés. Hein, on ne parle pas du producteur sur votre petit marché, comme moi je peux par exemple fréquenter. Et puis, ils ont été comparés. Alors, ils ont fait, en fait... deux paniers, le panier avec des fruits et légumes conventionnels et le panier avec les produits bio. Alors déjà, moi, mon grand étonnement, dans le panier bio de UFC Que Choisir, on trouve des pêches à 6,64€ le kilo.
Oh putain.
Et voilà, c'est hyper cher. Donc déjà,
de toute façon, c'est toujours moins cher sur le marché.
Ah bah sur le marché, même en conventionnel, hein, par exemple, leur pêche à eux, elle est à 2,64€. Hors taxe, je vous ai pas dit que c'était des prix hors taxe que nous donnait UFC Que Choisir. Et donc ils ont été remplis ensuite de paniers de consommateurs, consommatrices et puis ils ont fait des comparaisons et donc ils s'aperçoivent que le panier de fruits et légumes bio est 79% plus cher que l'équivalent en produits conventionnels, c'est-à-dire en bio, ce qui est énorme. Alors évidemment on pourrait se dire il y a des circuits qui sont plus petits en bio, on sait aussi que on manque de bio hein, en France et qu'il y a un marché qui s'étend au niveau de notre consommation et que les producteurs en France n'arrivent pas tout à fait à répondre à la demande. Mais quand on voit aussi qu'en conventionnel, on trouve des pommes qui viennent du Chili, hein, pourquoi nos pommes bio ne viendraient pas d'ailleurs aussi. Mais tout ça n'explique pas, en fait, pourquoi il y a une telle différence. Et UFC Que Choisir, ils ont donc été chercher un petit peu. C'est simplement parce qu'en fait, la grande distribution fait des marges énormes.
Mais rien ne les empêche de faire des marges énormes.
Non. Sauf que c'est de la surmarge à ce niveau-là, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est même plus de la marge. C'est énorme ce que la grande distribution fait. Alors l'étude, elle est intéressante. Elle fait une trentaine de pages à télécharger sur le site du UFC Que Choisir. C'est très lisible, hein, c'est très vulgarisé. Vous inquiétez pas, mais c'est intéressant à lire. Par exemple sur un panier, sur les deux paniers, donc il y en a un qui fait 368€, l'autre 660€, hein, donc ils sont pris sur une année. La différence sur les marges, elle est de 135€ quand même, donc c'est beaucoup. Et puis ils se sont aussi intéressés à est-ce qu'on trouve des produits bio dans les supermarchés. Il s'avère que dans un quart des supermarchés, on ne trouve pas les pommes. Par exemple, il n'y en a pas, ça n'existe pas en bio. Donc ils pointent aussi la grande distribution qui nous fait des belles pubs à la télévision pour vanter l'apparition du bio et du sain dans ces rayons, alors qu'en fait on ne trouve pas ces produits dans leurs rayons et dans tous les supermarchés. Monoprix, U et Intermarché se font particulièrement taper dessus. Et puis il faut savoir que ça a énervé la grande distribution. La Fédération du commerce et de la distribution a fait un communiqué de presse, c'était le 29 août, c'est-à-dire le lendemain de la publication de cette étude de la grande distribution. Alors, le communiqué de presse accuse UFC Que Choisir d'une série d'approximations méthodologiques. Termine en disant, la Fédération du commerce et de la distribution condamne donc totalement ce genre d'études approximatives, un moyen de noyer le poisson pour dire vraiment on n'est pas d'accord. Bon ben c'est intéressant quand même hein, parce que ça veut dire je crois qu'on a touché un point sensible de la grande distribution, c'est qu'elle fait du pognon. Là, la réflexion du FC que choisir, que je trouve intéressante, c'est de dire qu'on pourrait développer le bio s'il était un tout petit peu moins cher. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont beaucoup dans les supermarchés, malheureusement, et ne vont pas consommer du bio parce que c'est trop cher. Et que si jamais les supermarchés faisaient, et les hypermarchés, si la grande distribution faisait un petit peu moins de marge, hein, baissait un petit peu ses profits, on pourrait développer le secteur beaucoup plus facilement en France, puisqu'il y aurait plus de consommateurs, donc peut-être aussi plus de producteurs, et que c'est une chaîne, et que c'est un cercle vertueux, comme le dit UFC que choisir, et que tout ça pourrait entraîner le bio dans les fruits et légumes en production et en consommation en France. C'est pas gagné, mais en tout cas c'est clair que plus c'est cher, bah, moins les gens y vont et plus ils iraient sur du conventionnel, et donc plus ensuite on peut nous dire du côté des producteurs de pommes ah, mais non mais regardez les consommateurs ils veulent du conventionnel sinon c'est trop cher. Bah ouais, mais cet argent il va pas dans la poche des producteurs hein, il va bien dans la poche de la grande distribution. C'est aussi ce que pointe UFC que choisir, d'où les 30-35 pages très intéressantes à lire, je vous renvoie dessus.
Alors on va faire quelques petites infos environnementales. On va commencer par un truc assez typique des accords transnationaux qui sont signés. Vous savez que se créent en général des tribunaux privés extérieurs, c'est plus l'État qui juge, qui permet de régler les différends entre les États et les entreprises. Chose très négative, on a un nouvel exemple, c'est une entreprise pétrolière UPCOL Operating Co. qui est basée au Texas, qui attaque la Colombie, parce que la Colombie vient de lui retirer son permis d'exploitation du pétrole. Il exploite le pétrole dans une réserve naturelle qui est reconnue patrimoine biologique de l'humanité par l'UNESCO. Mais comme la Colombie a retiré le droit, et ben l'entreprise s'estime lésée de 83 millions de dollars. Donc, il dépose plainte sur un des tribunaux, puisqu'il doit y avoir un accord de merde transnational entre la Colombie, sur l'ALENA ou sur un truc comme ça, entre la Colombie et les États-Unis d'Amérique. Et donc voilà, il y a quand même toutes les chances que la Colombie elle perde, parce qu'on n'a pas le droit de protéger son patrimoine face à sa destruction. Si on a signé ce genre d'accord, on sait qu'on y a échappé provisoirement en Europe avec l'accord qui était préparé, qui a changé de nom plein de fois entre les États-Unis et la France. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça revienne, ça nous donne un vrai exemple, un vrai nouvel exemple. On va parler un peu de nucléaire, très rapidement, je vais aller très très vite. Une étude belge sur quatre sites nucléaires. Il y a d'abord Fleurus, qui est un site qui fabrique des radioéléments, notamment pour la santé. Des choses liées à la médecine. Ils ont étudié le nombre de cancers de la thyroïde dans la population autour de ce site nucléaire, et il y a 8% de plus de cancers de la thyroïde autour du site. Alors on sait qu'il y a eu un accident nucléaire dans ce site avec émission de gaz contenant de l'iode radioactif, et l'iode radioactif se fixant sur la thyroïde, ça développe des cancers, donc c'est peut-être la raison. La conclusion de l'Institut scientifique de santé publique belge dit qu'il n'y a pas de danger. Quand on lit l'étude, 8% en plus, si, il y a du danger. Ils ont fait d'autres études sur d'autres sites. Il y a un autre site sur lequel le taux de cancer de la thyroïde est supérieur. Là, c'est un peu moins, c'est 4% de plus. C'est à Molde-Essel. Par contre, sur les deux autres centrales d'Oel et Thihange, ils n'ont pas trouvé de taux supérieur. Alors, c'est une étude qui remonte à 2004, 2004-2014, et là, donc jusqu'à 2017 avec les conclusions. C'est pas fini. Ils continuent l'étude parce que là, c'est sur le cancer de la thyroïde, hein, qui est un cancer qui se soigne. Hein, donc, c'est pas très grave, même si après, c'est compliqué. Il y a des médicaments pour vivre sans thyroïde, mais c'est un cancer qui se soigne. Il y a plein d'autres cancers qui ne se soignent pas, notamment les cancers de la peau, des choses comme ça. Et du coup, l'étude est poursuivie dans le temps pour voir l'impact à long terme sur les autres cancers liés à ces sites nucléaires qui sont soit producteurs d'énergie électrique comme Doel et Tihange, soit producteurs de radioéléments pour la médecine comme à Fleurus. Autre info nucléaire qui est ressortie, c'est un peu revendicatif, mais c'est ô combien juste. Ça nous vient d'Algérie, puisque c'est le président de la Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et le Développement de la Recherche, le FOREM, Mustapha Kiati, qui a relancé un peu la polémique autour des essais nucléaires français en Algérie. On rappelle, hein, entre le 13 février 1960 et 1966, il y a eu plein d'essais nucléaires. Alors d'abord, des essais, on va dire, aériens, avec des explosions dans le désert, avec pas mal de contamination des populations habitant autour du village d'Oregon. Et puis ensuite des essais nucléaires en sous-sol que la France a fait. Donc lui, il est revenu sur ça. Il a rappelé que c'était un crime. Enfin, il estime que c'est un crime contre l'humanité. Et c'est pas loin d'être vrai, hein, d'avoir exposé ces populations et des militaires français d'ailleurs qui n'étaient pas bien au courant. Et c'était le début des essais nucléaires, compris plein de radioactivité, mais beaucoup. Il y a quand même beaucoup moins de militaires français qui ont été touchés que de la population locale. Eux, ils ont été indemnisés, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas morts. Donc, a priori, il y a eu 40... Le chiffre qui est d'une estimation, mais ça donnerait 42 000 Algériens qui seraient morts liés à cette pollution radioactive liée aux essais nucléaires. Il remet ça sur le devant de la scène pour essayer de faire bouger les choses. Il a vu que la Polynésie et les militants qui demandent une indemnisation pour les Polynésiens qui ont été eux aussi touchés par les essais nucléaires français ont obtenu quelques petits dédommagements. Donc lui, il relance le truc pour essayer d'obtenir des petits dédommagements aussi, ce qui serait assez logique, hein, puisqu'ils ont quand même été contaminés. Il y a eu quand même des morts, il y a toujours des malades. Voilà, c'est pour rappeler sur les essais nucléaires. Et puis dernière info environnementale, le glyphosate.
Tu parles au glyphosate, juste on aurait pu aussi revenir sur ce qui s'est passé cet été à Bure.
Les manifs, tu veux dire?
Avec les manifs, ouais, ça s'est passé mi-août, on aurait
ça
pu.
S'est mal passé.
Ça s'est mal passé. On a parlé de Charlottesville parce que ça nous a touché fortement, mais Bure, ça nous a aussi beaucoup touché.
Ouais, les manifs n'étaient pas autorisés, mais la police n'a vraiment pas laissé démarrer, ils ont tapé tout de suite.
Et puis des grenades assourdissantes, il y a eu des blessés graves. Hein, graves.
Du côté des manifestants, ouais,
très,
pas mal.
Très grave. Ah, ça, on s'en fout, hein, des gendarmes, c'est leur boulot, quoi. Mais voilà, on aurait pu aussi revenir sur ça. Si vous n'êtes pas au courant, allez taper tout ça sur un moteur de recherche et regardez. C'est pas beau.
Ouais, c'est de la violence.
Il y a un certain nombre de témoignages très violents. Quoi.
Ouais, le nucléaire entraîne souvent de la violence. Le glyphosate, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est Nicolas Hulot qui l'a annoncé. Il a reculé, il a changé de position. Ça nous fait plaisir. Puisque la France, à travers Nicolas Hulot, votera contre la proposition de la Commission européenne de renouveler pour 10 ans la licence du glyphosate. Le glyphosate, c'est le principal composant du Roundup, le principal herbicide de Monsanto et d'autres, hein, d'ailleurs. Qui est déclaré cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de la recherche sur le cancer, le CIRC. On sait que c'est pas gagné parce qu'il faut qu'il y ait la France n'est pas le seul pays à voter. Hein, on est 28 hein, donc à voter au sein de l'Europe. Il y a l'Agence européenne en charge des produits chimiques, l'ECHA, et celle de la sécurité des aliments, l'EFSA, qui ont dit le contraire, qui ont dit que c'était pas dangereux. Alors on sent bien que ces soi-disant scientifiques sont vraiment sous la coupe des lobbies de l'agroalimentaire notamment et puis des pollueurs. Mais les chercheurs indépendants, eux, sont tous d'accord hein, quasiment pour dire que le glyphosate est un produit cancérigène et dangereux. Donc voilà, la France a décidé de voter contre. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, notamment portées par ce gouvernement. Et Hulot est quand même pas mal. Il fait le grand écart en permanence entre les trucs positifs où il essaye de faire avancer les choses et puis les choses où il a décidé de ne pas faire avancer les choses parce qu'il y a trop de pression comme le nucléaire ou la pollution automobile où la lutte elle est très très faible. Bon voilà, quand c'est une avancée, nous pouvons le noter aussi en espérant que ça aille jusqu'au bout, bien évidemment.
Alors nous allons terminer cette émission par l'info éco du jour, si vous le voulez bien. Vous savez qu'on aime bien avoir un petit regard sur ce qui se passe sur l'économie des entreprises. C'est le rachat, mariage, fusion, acquisition de cette rentrée. C'est les Galeries Lafayette, le groupe Galeries Lafayette qui a décidé de racheter La Redoute. Alors La Redoute, il faut se souvenir, hein, il faut se souvenir que ça a été le groupe Kering, ex-PPR. Vous vous souvenez, qui en 2014 s'en était débarrassé comme ça avec une pichenette de doigts. Ce sont les anciens, enfin des gens de l'entreprise hein, qui avaient repris La Redoute. Je suis en train de vous chercher le partage en interne, je me souviens plus. Aujourd'hui donc, les Galeries Lafayette sont très intéressés par La Redoute. Ça devrait se faire assez prochainement hein, puisque ça se fait en accord. Hein. Ce n'est pas agressif. Il faut se souvenir que La Redoute revient. De loin, le groupe Kering ex-PPR avait décidé de mettre en vente La Redoute. Mais La Redoute, il faut dire, c'était devenu ringard. Il y avait son histoire de catalogue, hein, la VPC. Plus personne parle comme ça.
Maintenant, ils sont modernes, ils sont sur Internet.
Et maintenant, effectivement, la nouvelle équipe, il faut le dire quand même, a su redresser la barre. C'est l'ancien PDG, la secrétaire générale, qui sont à la tête de La Redoute, qui devrait rester, hein, d'après les informations qu'on a. Les salariés ont repris 49% du capital. Il y a 29% qui sont détenus par les quatre dirigeants, 20% par le reste des salariés. Ils ont développé la vente sur Internet, recréé tout plein de collections, ce qui a permis aussi de, bah, d'avoir un petit peu plus de gens. Ça ne veut pas dire que la qualité est meilleure, hein, entendons-nous bien. La Redoute s'est aussi développée sur tout ce qui va concerner la maison, l'habitat, un secteur qui marche très très fort et qui leur a permis de s'installer convenablement sur le marché français. Ce qui a intéressé le groupe Lafayette, qui surveillait a priori ce qui se passe à La Redoute depuis un petit moment. Il faut se souvenir aussi que La Redoute, ça avait des points de... ça avait des magasins, ça avait des points de retrait, il y en avait partout en France.
Il n'y en a plus de ça.
Et non, par contre, ils ont réouvert des structures à Paris, des magasins, dont certaines implantations sont où ? À l'intérieur des Galeries Lafayette. Donc, vous voyez, il y avait déjà un petit peu du lien qui s'était créé. Et en fait, c'est là où le dit que Mottier, hein, propriétaire du groupe Galerie Lafayette, qui va faire ce rachat. Ça va se faire en deux temps. D'abord, la holding va acquérir 51% de La Redoute, et puis ça va passer à 100%. On ne connaît pas le montant de l'opération. C'est secret pour l'instant.
Ça doit être des gros chiffres quand même.
Ouais, je pense. Je pense. L'idée, c'est que le nouvel ensemble qui totalise aujourd'hui, si on additionne les chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros vise pour 2020 5,5 milliards, c'est-à-dire une augmentation d'un milliard, donc oui, on parle en milliards. Donc voilà, c'est La Redoute a priori sur les dirigeants ont l'air plutôt contents de ce rachat. Ça va permettre de reconsolider la vente en ligne. Je ne sais pas ce qu'en pensent les syndicats, les salariés au sein de La Redoute, comment ils vivent ça. Bon, déjà la Galerie Lafayette, le groupe a décidé de pas virer les têtes pensantes. C'est déjà une bonne chose, parce qu'en général, quand on coupe la tête,
c'est pour faire du ménage derrière.
Ça amène des difficultés. Mais il faut savoir que le groupe Galerie Lafayette, c'est déjà a déjà acheté Bazarchi et Instant Luxe, hein, deux ventes en ligne, deux plateformes de vente en ligne. Donc c'est aussi un rapprochement et des regroupements, mais ça c'est partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis d'Amérique, beaucoup en Europe, ça se resserre. Pas forcément bon, hein, au final, hein, pour un peu tout le monde, puisque vous appartenez à un seul unique groupe. Nous, on n'est pas trop, hein, ici, dans cette émission, pour les multinationales énormes, mais en tout cas, voilà, c'était l'affaire de la journée.
Et ben, c'est la fin de ce Canu Info.
Bah oui.
On se retrouve la semaine prochaine.
Et oui.
19h-20h.
Oui, on a un peu dépassé cette semaine. Ouais. Il est 20h18 à ma montre.
Et normalement, les Canu Info, c'est tous les jours de la semaine. Les équipes reprennent petit à petit. Donc, vous pouvez essayer d'écouter demain pour voir s'il y a un Canu Info. J'ai oublié de demander tout à l'heure aux copains qui étaient là.
Oui, parce qu'on vous appelle. On vous rappelle, si vous n'êtes pas des habitués de cette tranche horaire sur Radio Canu, qu'il y a des équipes différentes.
Tous les jours.
Tous les jours de la semaine. Ou presque. Je ne sais pas pour cette rentrée comment les équipes vont se reconstituer, ce qui fait que ça vous donne un son, des voix et des idées différentes, même si on est un petit peu quand même dans la même lignée, il faut bien le dire. Mais c'est aussi un moyen d'écouter des choses différentes du lundi au vendredi.
Allez, bye bye, on vous laisse en compagnie des bandes continues, et la prochaine émission, ça devrait être vers 21h.
Ciao, ciao.